8h16 sur Europe 1. Mon invité ce matin, le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Bonjour Jean-Michel Blanquer.
Bonjour Mathieu Béliard.
Alors nous sommes dans la séquence de réouverture, de retour à un semblant de normalité et d'art de vivre à la française. Les écoles, collèges, lycées, vous faites le point régulièrement Jean-Michel Blanquer. Ce matin, est-ce que vous pouvez nous dire combien d'élèves sont contaminés par le Covid et combien d'établissements, de classes fermées?
Bah, sur les 7 derniers jours, c'est 12 922 élèves qui ont donc des cas confirmés. C'est nettement en baisse par rapport à ce qu'on avait la semaine précédente. C'est 1322 personnels, ça aussi c'est en baisse. À chaque fois, on est autour de 0,1% de personnes concernées. Donc c'est ce qui conduit aujourd'hui à avoir 5110 classes fermées. Là aussi, c'est assez stable et on est à 0,9% pour le coup de classes fermées. Donc c'est assez stable, c'est même plutôt en légère baisse. Et comme on a un protocole très sévère, vous savez, puisqu'on ferme une classe pour un cas, ce nombre de classes fermées monte relativement faible et montre que la situation est en train de s'améliorer.
Dans les semaines qui viennent, on va continuer à fermer une classe pour chaque cas?
Alors, à ce stade, oui. Bien sûr, vous le savez, le protocole peut toujours évoluer. Et d'ici à la fin de l'année scolaire, j'espère qu'on pourra changer les choses. Mais à ce stade, ça reste la même chose.
Alors, le système mis en place pour les collèges, c'est celui de la demi-jauge en 3e et 4e pour une quinzaine de départements parmi les plus touchés. En Zoom, à distance, avec des distractions. Il y a des parents qui protestent et qui estiment que leurs enfants seront désavantagés. Ce système est-il durable ?
Alors, il aurait pu être durable, puisqu'on est toujours obligé de s'adapter à la situation. Et n'oublions jamais que quand on fait ces choses-là, c'est parce que nous visons quand même l'objectif que les élèves puissent aller à l'école. Et on a mis toute une série de conditions pour que le cadre sanitaire soit strict. Mais le fait est que, du fait de l'amélioration de la situation sanitaire, je vous le dis ce matin, à partir de la semaine prochaine, progressivement, les 4e et 3e de ces départements pourront revenir en présence, en jauge entière, enfin en classe entière.
Toute la semaine prochaine.
Oui, toute la semaine prochaine.
À partir de lundi.
À partir de lundi, alors ça peut être progressif, hein, certains. Il faut laisser le temps aux principaux de collège, aux professeurs et à toutes les équipes
qui l'apprennent
de s'organiser.
Là, ce matin sur Europe 1.
C'est la première fois que je dis sur les médias. Je le fais savoir évidemment au chef d'établissement ce matin même, puisque c'est une décision que nous avons pu prendre hier soir. Et donc, je sais que c'était ce que tout le monde demandait.
Oui.
Il fallait évidemment que les conditions sanitaires s'améliorent dans les départements concernés. Hein. Rappelons que c'était des départements en rouge. Il y a encore pas si longtemps. Il y a un mois. Et bien maintenant, du fait des efforts de tous, on peut refaire cela. Et donc, c'est évidemment une très bonne nouvelle.
Les parents craignaient le décrochage, bien sûr, là, et puis une rupture d'égalité entre les élèves. À partir de lundi, on note donc la fin de ce système de demi-jauge au collège. Les lycées, ça ne bouge pas pour l'instant.
Ça ne bouge pas pour l'instant. Encore une fois, les choses peuvent bouger d'ici aux vacances d'été, du fait de l'amélioration de la situation sanitaire. Et c'est pas à pas que nous avançons.
C'est un temps fort de votre calendrier, Jean-Michel Blanquer. On approche des épreuves du baccalauréat, avec une grande part de la note en contrôle continu, mais reste le grand oral, la philo notamment. Comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il faut isoler les élèves avant l'épreuve?
Alors, la situation est un peu différente pour la philosophie et pour le grand oral, puisque pour la philosophie, on a la note de contrôle continu qui est un peu le filet d'un élève qui serait empêché le jour de l'épreuve éventuellement. S'agissant du grand oral, va s'appliquer ce que la règle qui vaut pour le baccalauréat en général, c'est-à-dire si on est malade ce jour-là, il y a évidemment une session de rattrapage. Par ailleurs, dans chaque centre d'examen, ce sont des règles sanitaires très strictes qui s'appliqueront, avec évidemment le port du masque, les distances, les gestes barrières.
Mais pas de quarantaine des élèves.
Pas de quarantaine des élèves.
Avant l'épreuve, est-ce qu'il faudrait forcer la main sur les tests? Je voyais simplement que le SNPDEN, le syndicat des proviseurs, s'inquiète du taux d'acceptation des autotests inférieur à 10%, disent-ils. Est-ce qu'il ne faut pas un peu plus tester ces élèves?
Alors, heureusement, ce taux est supérieur à 10%, mais il est parfois inférieur à 10% dans certains établissements, c'est vrai. C'est très variable en réalité. Et d'ailleurs, j'en profite pour le dire aux parents d'élèves qui nous écoutent, il faut évidemment accepter le principe des autotests, qui est quelque chose de très pratique, très simple, qui ne cause aucune douleur aux enfants et qui sont très utiles partout où on le pratique.
Vous expliquez les réticences ? Vous comprenez les réticences ?
Je pense que sur chaque sujet, ça a été vrai même pour les tests salivaires, et c'était vrai aussi pour les masques, il y a toujours un temps de latence, c'est-à-dire un temps d'adaptation. Donc je ne suis pas très étonné, et d'ailleurs les choses s'améliorent avec le temps. Bon, quand il n'y avait pas les autotests, il y avait beaucoup de gens pour dire c'est quand même dommage qu'on n'ait pas d'autotests. Maintenant qu'il y a les autotests, on entend surtout des voix pour dire que ça pose des problèmes X ou Y. En réalité, on a maintenant trois générations de tests simultanément dans le système scolaire pour tester massivement. On est un des pays qui teste le plus.
Il faut
les utiliser, ils sont distribués dans les établissements. Les adultes le font, hein, les professeurs, les personnels le font depuis la rentrée de fin avril, normalement deux fois par semaine. Et puis les élèves lycéens, c'est une fois par semaine. Il faut le faire, évidemment. Et ça, d'ailleurs, partout où on l'a fait, ça a été très utile, c'est pratique, c'est simple. Et donc, il faut qu'on continue. Mais je suis optimiste sur ce point, c'est-à-dire que ça fait partie des habitudes qui se créent. J'espère que dans les temps à venir, on n'en aura plus besoin.
On prend,
de toute façon,
des habitudes.
Mais en tout cas,
habitudes.
On a maintenant, je dirais, des réflexes sanitaires qui s'installent.
Jean-Michel Blanquer, je voudrais vous parler de la rentrée scolaire, parce qu'on est à la fin du mois de mai. Et évidemment, au ministère, vous travaillez déjà sur la question de septembre. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour permettre un retour à la normale le plus possible? Est-ce que vous avez prévu des purificateurs d'air, des capteurs de CO2? Je voyais encore hier qu'on a un vrai problème d'aération dans les établissements scolaires.
Oui, alors, il y a des sujets qui relèvent de la compétence du ministère et d'autres qui relèvent des collectivités locales. On fait évidemment attention de respecter les domaines de compétence. On établira au mois de juillet un protocole sanitaire pour l'année 21-22. Et ce sera une logique comparable à celle que nous avons eue, c'est-à-dire consistant à préparer un curseur qui peut bouger en fonction de la situation. C'est ce qu'on a fait tout au long de l'année 20-21. Et je rappelle que nous sommes en train d'arriver à cette fin d'année scolaire, que la France aura été l'un des pays, pour ne pas dire le pays, qui aura gardé ses écoles ouvertes.
Ouais.
Et c'est précisément avec cette méthodologie, qui repose d'ailleurs beaucoup sur la stratégie tester, alerter, protéger. Et c'est cela qui nous a permis d'avoir l'année scolaire la plus normale possible. Elle n'a pas été normale, bien sûr, mais
il faut le
la plus normale
plus
possible.
Chez d'autres de nos voisins, si mais ce que vous me dites là ce matin, c'est que par exemple, pour la question qui se pose par de nombreux parents, les enfants masqués, on le saura au mois de juillet, s'ils seront masqués encore en septembre.
Alors, non, on saura au mois de juillet les possibilités, et puis après, c'est à la fin du mois d'août, au plus près de la réalité sanitaire, que l'on prendra les décisions. C'est ce que nous avons fait l'année dernière. Vous savez, parfois, on m'a reproché que les choses étaient parfois brusques, mais quand elles l'ont été, c'est parce qu'on essayait d'être au plus près de la réalité sanitaire.
Du calendrier.
Donc, là où tout le monde verra avec transparence ce qui peut se passer, c'est avec la publication du protocole en juillet, et puis ensuite... Fin août, nous dirons ce qui doit se passer. Mais ce que j'espère profondément, comme tout le monde, c'est que surtout on aura besoin de peu ou pas de mesures parce que il y aura eu un recul du virus. Mais ça, c'est évidemment personne ne peut le dire.
Alors sur le Grenelle de l'éducation, vous avez annoncé cette semaine une nouvelle hausse des salaires pour les enseignants, un effort budgétaire de 700 millions d'euros. Disons-le clairement, certains y voient du clientélisme à l'approche des régionales.
Bon, pas du tout. Alors là, si vous voulez, ça fait des mois et même des années que nous parlons de cela. Donc c'est totalement déconnecté des échéances électorales. Simplement, c'est un travail très en profondeur qui a commencé il y a plus de deux ans en réalité avec ce qu'on appelle l'agenda social, qui s'est poursuivi avec ce qu'on appelle le Grenelle, c'est-à-dire des discussions non seulement avec les organisations syndicales, mais en fait avec l'ensemble de la société civile, par exemple les scientifiques, les parents d'élèves, les parties prenantes de l'éducation, pour transformer les ressources humaines de l'éducation nationale. Vous savez, on a longtemps utilisé le nom d'un pachyderme préhistorique pour parler de la maison dont j'ai la responsabilité. Je ne veux plus qu'on utilise ce nom, parce
le
que
mammouth.
C'est en train de changer. Nous sommes en train de passer à quelque chose de beaucoup plus souple, plus flexible, plus humain, plus personnalisé. Et c'est non seulement l'augmentation des rémunérations qui est un enjeu majeur, hein, et parce que nous devons être un pays moderne, qui paye bien ses professeurs, qui paye bien ses personnels. Et c'est ainsi qu'on a un système éducatif qui ensuite peut être réussi pour nos élèves. C'est non seulement cet enjeu qui a été regardé bien en face et qui fait que, au moment où je vous parle, par exemple, en ce mois de mai 2021, il y a les premières augmentations au titre du Grenelle qui existent pour les professeurs les plus jeunes en particulier.
Les premiers concernés.
C'est pour un professeur titularisé l'an dernier, c'est 100 euros par mois désormais de plus. Et évidemment, nous continuerons en 2022. Et dans une vision stratégique, c'est pas des mesures du tout prises à la petite semaine. C'est des mesures au contraire très structurelles, mais qui s'accompagnent aussi de changements dans notre manière d'organiser les ressources humaines. Là aussi, pour que ce soit plus du tout anonyme, que ce ne soit pas aveugle, mais qu'au contraire, ce soit au plus près des besoins du terrain. Et par exemple, en améliorant le remplacement des professeurs, en améliorant l'affectation des professeurs, en améliorant le suivi de santé des professeurs.
C'est un processus qui suit son cours. Donc, Jean-Michel Blanquer, le Conseil constitutionnel a retoqué un texte de loi sur les langues régionales. Je voudrais expliquer à nos auditeurs, c'est pas toujours très clair, un texte qui permettait aux établissements, y compris publics, de pratiquer l'enseignement immersif dans une langue régionale, le breton, l'occitan, selon les régions évidemment. Des députés de la majorité ont saisi le Conseil constitutionnel qui a retoqué le texte. Je cite le président de la République. « Les langues de France sont un trésor national. Le droit doit libérer, jamais étouffer, ouvrir, jamais réduire. » Jean-Michel Blanquer, comment allez-vous vous y prendre pour permettre cet enseignement immersif ?
Alors, c'est évidemment très important de dire d'abord que les langues régionales, c'est extrêmement important. Nous les encourageons beaucoup. De nombreuses mesures ont été prises d'ailleurs depuis 2017 dans ce sens. Et tout récemment, j'ai annoncé encore un train de nouvelles mesures, notamment pour bien prendre en compte les langues régionales au baccalauréat. Comme nous le faisons pour le latin.
Non, mais là, on parle d'enseignement immersif, de cours en langue régionale dans certains établissements.
Qui concerne donc 15% des élèves qui font des langues régionales le font actuellement selon ce qu'on appelle l'enseignement immersif ou qui ressemble à cela. Le Conseil constitutionnel a consacré la notion de bilinguisme. Et donc, ce que nous faisons actuellement, c'est de recevoir les associations concernées. C'est ASCA, D1 en Bretagne, par exemple, ou c'est ASCA dans le sud-ouest. À chaque fois, le but est de les rassurer en leur disant que, bien entendu, leur existence est. Et n'est absolument pas menacé, et que même nous reconnaissons des résultats qu'ils peuvent avoir. Simplement, il faut qu'on soit en conformité avec ce que le Conseil constitutionnel a décidé. Moi, je suis optimiste sur le fait qu'on va trouver les bonnes formules. L'objectif, c'est quand même.
On pourra, à la fin de ce quinquennat, garantir ces écoles immersives, qu'une école publique puisse donner des cours en breton, par exemple ?
Oui, la question c'est de là où on met le curseur, si vous voulez. Moi je pense que pour une école publique, par exemple, le français doit être présent tous les jours. C'est ce qu'a dit le Conseil constitutionnel. Donc le sujet n'est d'ailleurs pas tellement autour des écoles publiques, parce que dans les écoles publiques, il est évident qu'on doit garantir une présence du français. Je n'imagine pas des écoles publiques où on ne parle pas français et qui se multiplieraient, ça n'aurait pas de sens. Par contre, il y a des écoles privées sous contrat qui font cela maintenant depuis une vingtaine d'années. Elles ont des réussites, c'est normal que ce soit cadré, c'est la logique de privé sous contrat, et tout ça doit se faire dans le cadre évidemment constitutionnel et dans le cadre défini par le président de la République.
Je reviens au tout début de l'interview, je le redis pour nos auditeurs, la fin des demi-jauges en 3e, 4e pour les établissements de la quinzaine de départements les plus touchés par l'épidémie. Merci Jean-Michel Blanquer.
Merci à vous.
Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin, le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Il est 8h20.